religion du monde, Geneviève Delru.
Pues apete que
vous savez,
conclave era di dare un vescovo a Roma.
Que l'objectif du conclave c'était de donner un évêque à Rome.
I miei fratelli cardinali
mes frères
sont andati a prenderlo quasi alla fine del mondo.
Semble l'avoir cherché quasiment au bout du monde.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, c'était déjà il y a 5 ans, le 13 mars 2013, le monde découvrait le pape argentin venu effectivement du bout du monde. Son attitude, ses premières paroles annonçaient d'emblée une rupture de style, une autre façon d'endosser la fonction. Si le pape argentin était choisi par ses pairs, c'est bien pour remettre de l'ordre dans la maison, autrement dit la curie, et aussi permettre à l'église de renouer le dialogue avec celles et ceux qui se sont éloignés d'elle. Autrement dit, le mot-clé de ce pontificat serait réformé. Alors, 5 ans après, où en est cette réforme? C'est le fil rouge de cette émission. Pour y répondre, dans le cadre d'un partenariat RFI La Croix, nous entendrons dans cette première partie Nicolas Senez, envoyé spécial permanent au Vatican du quotidien, et Marie Malzac du service religion. Tous deux signent le dossier de ce week-end consacré aux 5 ans du pontificat du pape François. Et également dans ce studio, le père Daniel Douigou, curé à Paris de la paroisse Saint-Méry, qui vient de signer aux presses de la Renaissance une lettre ouverte d'un curé au pape François. À vous trois, bonjour.
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 On ouvre avec vous, Nicolas Senez. Votre dossier fait la synthèse des grands travaux entrepris, la création du C9, le grand conseil des cardinaux chargé d'épauler le pape, la réforme des finances du Vatican, la mise en route de la décentralisation de l'Église, la création d'une commission pontificale pour la protection des mineurs. Donc là où le bât blessait, là où il y avait des dysfonctionnements, Nicolas, le pape semble malgré tout avoir quand même impulsé un vrai changement.
Oui, il y a vraiment un changement qui est en cours et on le sent depuis 5 ans au Vatican. En même temps, le changement se fait sur la durée. C'est un pape qui veut lancer des processus. C'est quelque chose qu'il répète assez souvent. Donc pour mettre de l'ordre dans la maison, comme vous le disiez tout à l'heure, il sait qu'il faut un changement en profondeur. Et donc, plus que changer des structures, ce qu'il a fait, hein, il a changé des structures sur les finances, sur la communication, il a créé 2 nouveaux dicastères, c'est-à-dire 2 ministères pour les laïcs, la famille et la vie, et pour le développement humain. Mais plus que les structures, ce qu'il veut changer, c'est l'état d'esprit des gens qui travaillent à la curie, leur façon de travailler. Et là, il a changé des choses, par exemple, en termes de subsidiarité, avec les conférences épiscopales, en confiant plus de responsabilités aux évêques dans les procédures de nullité de mariage, ou bien pour les traductions liturgiques. L'esprit, c'est d'essayer de se rapprocher au maximum des préoccupations des gens et d'avoir effectivement cette subsidiarité, c'est-à-dire d'agir là où c'est le plus efficace. Et puis, pour ce qui est de la curie, changer l'état d'esprit, c'est lutter. Et là, c'est un travail qui est lent, c'est un travail qui sera très long, sans doute pour moi, sur au moins une génération, voire plus. C'est changer l'état d'esprit cléricaliste qu'il peut y avoir au sein de la curie et qu'il peut y avoir plus largement dans l'Église.
C'est quoi un état d'esprit cléricaliste, Nicolas Senez?
C'est finalement voir l'Église qu'à travers la hiérarchie, qu'à travers les clercs. Le Concile Vatican II a impulsé un changement très fort dans l'Église qui était de définir l'Église non plus comme une hiérarchie, mais comme un peuple de Dieu. C'est-à-dire, il y a la hiérarchie, il y a les prêtres, les évêques, etc., dont on a besoin, mais il y a aussi les fidèles. Et c'est de souligner que les fidèles font partie complètement de l'Église. Or, on remarque, et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, c'est de plus en plus flagrant, qu'il y a cette tentation des clercs de s'approprier l'Église, de ne concevoir l'Église que pour eux, de savoir uniquement eux ce qui est bon pour l'Église, et finalement, parfois aussi, de la défendre et de défendre l'institution, et finalement de se défendre eux-mêmes quand il y a des problèmes. On l'a vu très fortement sur les affaires de pédophilie, sur les affaires d'abus sexuels, ou quand des fidèles osaient dire un certain nombre de choses, de mettre en avant un certain nombre de dysfonctionnements, on les accusait de mettre en cause l'Église, d'attaquer l'Église, alors même que eux se situaient dans l'Église. Donc il y a toute cette façon de penser que le pape veut absolument essayer de mettre à bas. On pourrait dire d'une certaine façon, comme disait Gambetta, pour le pape François, le cléricalisme, voilà l'ennemi.
défendre l'Église. Le pape, malgré tout, l'a fait, justement, sur ces questions de pédophilie, récemment au Chili. Hein, on lui a reproché, quand même, de défendre, en quelque sorte, un évêque qui était très proche, effectivement, d'un prêtre qui a fait, bon, elle a beaucoup de mal dans ce domaine, dans son pays.
Oui, alors, il y a eu ces accusations. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'a donné l'enquête en cours.
Qui a été ouverte, effectivement.
Il y avait une première enquête, après laquelle on avait assuré au pape que, effectivement, cet évêque, avait dit la Congrégation pour les évêques, aucun élément objectif permettant de remettre en cause sa nomination. Donc le pape avait suivi ses services. Le pape a demandé récemment une nouvelle enquête donc à un évêque maltais qui est allé au Chili enquêter, rencontrer les victimes. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, la question de l'affaire donc, de Mgr Barros, c'est quand même une affaire qui est extrêmement complexe parce qu'on se situe dans un monde extrêmement clos, extrêmement fermé, où autant les victimes, autant Mgr Barros étaient tous des gens qui étaient proches de ce prêtre qui a fait beaucoup de mal, le père Karadima, l'ex-père Karadima, puisqu'il n'est plus prêtre aujourd'hui, il a été renvoyé de l'état clérical, comme on dit. Mais donc il y a, entre tous ces gens-là, certains qui sont devenus prêtres, évêques, d'autres qui sont restés laïcs, il y a un peu une atmosphère de règlement de compte. Et donc cette histoire-là est extrêmement complexe, et je pense que Mgr Scicluna, en faisant son enquête, va essayer de démêler un petit peu cet écheveau qui est très emmêlé.
Vous accordez une grande place dans votre dossier, Nicolas Senez, à justement à cette lutte contre la pédophilie. C'est un des dossiers clés du pontificat du pape François, sans pour autant, bien sûr, réduire ce pontificat à cette seule question.
Non, c'est une question clé, comme elle l'était d'ailleurs déjà pour le pape Benoît XVI. Je pense que c'est une question qui résume à elle seule toutes les problématiques finalement auxquelles est confronté le pape François dans sa volonté de réforme de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a la volonté donc de résoudre cette question-là. Le pape François, s'il veut réformer l'Église, c'est avant tout pour lui redonner sa capacité évangélisatrice. Et donc c'est supprimer tous les freins à l'évangélisation. Et la question des abus sexuels, c'est clairement un frein à l'évangélisation, parce que ça touche profondément à ce qu'est l'Église, à sa relation avec les gens, et donc on ne peut pas admettre que l'Église puisse faire autant de mal à des gens. Donc c'est quelque chose que le pape veut vraiment extirper, cette question-là. En même temps, il doit agir donc en réformant l'Église, donc il faut enquêter, il faut punir les gens, il faut que les informations remontent. Donc il y a toute la question, on parlait tout à l'heure de la subsidiarité, de la décentralisation de l'Église. On se heurte là à un vrai frein de la décentralisation, parce que c'est donner des responsabilités aux évêques qui, pendant des années, ont eu tendance finalement à mettre sous le tapis un certain nombre d'affaires, en disant « on va gérer ça », et puis en fait ils ne les géraient pas, on cachait, on déplaçait des prêtres. Donc on a fait remonter à Rome maintenant toutes les affaires. On s'aperçoit aujourd'hui que la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui est en charge de ces questions-là, est aujourd'hui complètement débordée. Le chiffre qu'on nous a donné très récemment, c'est qu'il y a 1800 dossiers qui sont actuellement en enquête à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Donc il n'y a absolument pas les moyens de gérer tout ça. Alors, le Vatican, le pape avec son conseil de cardinaux, le C9, sont en train de réfléchir à, alors non pas décentraliser, c'est-à-dire non pas confier aux évêques les enquêtes sur ces dossiers-là, puisque on a vu qu'il n'avait pas été capable de le faire correctement, mais peut-être une des idées qu'il lançait, c'est de créer des tribunaux régionaux où la doctrine de la foi aurait de façon déconcentrée un certain nombre de tribunaux pour enquêter sur place sans que tous s'entassent à Rome, sans qu'on arrive à juger les affaires.
Quelques mots sur les finances du Vatican. On peut quand même dire que c'est un point très positif de la réforme du pape François, puisque comme vous l'écrivez, le Vatican n'est plus un paradis fiscal et l'IOR, donc la Banque du Vatican, n'est plus une officine de blanchiment.
Oui, ça c'est vraiment la grande réussite finalement de cette réforme des finances, qui ne s'est pas faite sans mal. Mais effectivement, aujourd'hui, on entend que même si le Vatican a gardé son indépendance, a gardé sa souveraineté, que l'IOR est une banque qui n'est pas dans la zone euro, sur lesquelles on ne paye pas d'impôts, puisqu'il n'y a pas d'impôts au Vatican, ça n'est plus intéressant aujourd'hui pour des gens qui voudraient blanchir, pour des gens qui chercheraient un paradis fiscal, de venir au Vatican. Et ça, c'est le grand changement qu'a impulsé le pape François. Les réseaux qui utilisaient, et qui ont utilisé de façon assez claire maintenant, le Vatican et l'IOR comme officine de blanchiment, n'ont plus intérêt parce que aujourd'hui toutes les transactions sont surveillées, on demande de justifier toutes les transactions au-delà d'un certain seuil. et ne peuvent plus avoir aujourd'hui de compte à l'IOR que des institutions d'église qui doivent le justifier.
Merci Nicolas pour ces éclairages. Je rappelle donc que vous êtes l'envoyé spécial permanent du quotidien La Croix au Vatican. Merci.
Desidero ancora una volta farmi voce di questi nostri fratelli.
Je désire une fois encore me faire la voix de nos frères et sœurs qui invoquent pour leur avenir un horizon de paix, a lancé François. Pour cette paix à laquelle tous ont droit, beaucoup parmi eux sont prêts à risquer leur vie dans un voyage souvent long et périlleux, à affronter les épreuves et les souffrances.
Alors, le pape François, donc à l'occasion de la journée mondiale des migrants, hein, début janvier, Marie Malzac, la question des migrants, une question centrale également de ce pontificat.
Oui, absolument. Et en entendant cet extrait, je repensais à une phrase que le pape François a prononcée au tout début de son pontificat quand il a dit « comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres ». Et le pape voit aujourd'hui dans les migrants cette figure du pauvre. Et c'est pour ça que c'est vraiment le fil rouge, en fait, depuis Lampedusa jusqu'à Lesbos. Enfin, c'est quelque chose qui, on le constate, lui tient énormément à cœur, qu'il rappelle en permanence, au risque de créer parfois, même souvent, des incompréhensions, voire plus, et notamment en France. C'est un des pays, il me semble, où ces réticences à ce message, cet appel universel à l'accueil généreux des migrants est reçu avec le plus de difficultés.
Oui, où on parle parfois d'un accueil inconditionnel,
oui,
ce qui n'est pas vraiment le cas quand même. Mais
c'est,
bon.
C'est pas tout à fait le cas, effectivement, parce qu'il a parlé plusieurs fois, enfin le pape François a parlé plusieurs fois de la prudence nécessaire dans l'accueil des migrants, etc. Mais c'est vrai qu'il appelle à un accueil très large et très généreux, et pour nos sociétés occidentales, et en particulier la société française, avec beaucoup d'incertitudes au niveau des identités, etc., ces appels sont parfois reçus avec voilà des questionnements.
Dans ce dossier, Marie Malzac, de ce week-end, donc sur les 5 ans du pape François, vous signez donc un long article, hein, sur les Français, justement, et le pape François. Est-ce que l'on peut dire que la papamania qui existait au début a justement un peu régressé?
C'est vrai que au début du pontificat, le pape a bénéficié d'une popularité assez incroyable, qui, je crois, n'a pas encore été entamée, du moins pas dans les personnes qui, en fait, sont plutôt éloignés de l'Église, ou en tout cas qui sont pas dans une pratique très régulière, etc., et qui ont été touchés de voir justement un pape qui leur parle, qui parle de leurs préoccupations quotidiennes, qui parle de la famille, qui pose des gestes qu'ils peuvent comprendre. Donc toutes ces personnes continuent de voir le pape avec un regard très positif, mais le cœur de cible, on va dire, chez les catholiques peut-être les plus engagés, etc., une partie, une frange, je dirais pas qu'elle est majoritaire, mais en tout cas elle est consistante et elle est dynamique, s'interroge sur la façon de présenter certains sujets, et chez eux cet engouement initial au sujet du pape François a pu effectivement connaître un déclin.
Là, vous faites allusion aux échanges, hein, sur Facebook à propos du pape François et principalement les migrants.
C'est vrai que les réseaux sociaux sont un peu le théâtre de tous ces débats autour de l'accueil des migrants, mais aussi sur d'autres sujets qui peut-être sont un petit peu minoritaires, ou en tout cas ont été beaucoup traités au cours des 2 ou 3 années précédentes. Je pense à Maurice Laetitia, notamment l'exhortation apostolique sur la famille. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les migrants cristallisent les clivages internes aux catholiques français par rapport au pape François.
Dans l'enquête que vous signez donc dans La Croix de ce week-end, hein, sur les Français et l'adhésion ou non au pape François, la question de cette possibilité, hein, pour les divorcés mariés aujourd'hui d'avoir une bénédiction, par exemple, est-ce qu'elle est critiquée, ou au contraire est-ce qu'elle elle passe très bien?
Je crois que quand l'exhortation apostolique est parue, donc il y a 2 ans pile, quasiment pile, puisque c'était début avril 2016.
Après un synode assez houleux, quand même.
Après un synode, tout à fait, assez houleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Les réactions ont été extrêmement variés, les débats ont été nombreux. Je crois qu'on ne s'est pas encore tout à fait approprié ce texte, qu'il n'est pas encore tout à fait descendu, mais c'est sûr que le changement du paradigme qu'a proposé le pape à l'Église universelle, à savoir sortir d'une culture du permis défendu, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais inviter chaque fidèle, et on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le cléricalisme, à faire confiance en fait aux laïcs et à leur discernement, a aussi troubler les repères de beaucoup de monde, en fait, puisqu'on leur dit plus il faut faire ça ou il faut pas faire ça, même si bon, on en est quand même sorti depuis quelques décennies, heureusement, mais on leur donne des outils de discernement, et c'est vrai que ça trouble.
Père Daniel Douigou, je me tourne vers vous justement sur cette question du permis, du licite et du pas licite. L'Église bouge quand même.
Ah, je trouve que formidable l'esprit de François, l'esprit de liberté. Il ne défend pas un système. Il veut rejoindre les gens dans leur réalité de la vie, et c'est plus une démarche juridique, c'est une démarche de pastorale où il s'agit d'accueillir la vie telle qu'elle est, avec l'évolution des mentalités, et d'aider les hommes et les femmes à construire eux-mêmes leur vie en conscience, en sachant et en puisant dans leur imagination, je dirais, comment construire chacun son bonheur. Mais c'est une ouverture. Ce qu'il m'avait dit d'ailleurs lorsque nous nous étions rencontrés, et il s'était redressé d'ailleurs pour le dire, dans l'Apocalypse, il y a un homme qui frappe à la porte, de l'Église. C'est pas pour entrer, c'est pour sortir de l'Église. Vous vous rendez compte? Le pape au cœur même du Vatican, qui vous dit l'essentiel, c'est de sortir de l'Église, c'est-à-dire de sortir de toute une conception juridique de l'Église, pour être enfin une parole de vie qui donne envie de vivre, et chacun selon son histoire, dans sa liberté propre. C'est une vraie révolution, et il rejoint Jésus, c'est-à-dire cet homme, le Nazaréen, qui ne faisait par exemple des miracles pas pour embrigader, mais pour aider des hommes et des femmes à se libérer de ce qui les empêchait de vivre, pour vivre pleinement leur histoire.
Quand le pape François a dit effectivement que l'Église n'était pas un poste de douane, c'est ça, c'est bien,
oui,
ce terme, Marie Malzac, vous me confirmez. Pour vous, c'est un des signes de la révolution du pape François.
Oui, je crois, comme on le disait à l'instant, se sortir du licite et de l'illicite, et en même temps sans rien enlever de l'exigence évangélique, parce que je crois que le pape François insiste aussi beaucoup sur la radicalité de l'Évangile et ce que ça comporte, et que de dire que c'est plus interdit ou pas, ça veut pas dire que la radicalité appelle pas aussi un changement en profondeur des personnes, à la conversion permanente, à laquelle en fait pour lui tout fidèle est invité, et surtout à commencer par lui-même. Et il le dit tout le temps, il se considère tout le temps, il s'accuse tout le temps comme pécheur en besoin de conversion, et
priez pour moi,
demandant,
il le dit très souvent,
et vous l'a dit, vous, lorsque vous l'avez rencontré à l'été 2015 au Vatican, il vous a dit priez pour moi, comme il l'a dit le premier soir, n'est-ce pas,
et comme vous le disiez très bien, la révolution, c'est que lorsque le pape parle, le pape François, on n'a pas l'impression qu'il parle à des enfants, il parle à des adultes, et il suscite la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est pas aux prêtres avec le monopole tel que les prêtres l'exercent sur l'Église, qui ont à dire aux hommes et aux femmes ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour construire sa vie.
Marie Malzac, le mot de la fin.
En fait, ça me fait penser aussi sur beaucoup d'autres sujets. Je pense notamment aux relations avec les protestants, où le pape François a invité à être inventif justement dans les nouvelles possibilités. Là, récemment, on a vu en Allemagne la possibilité pour les couples protestants et catholiques proposés par les évêques de pouvoir communier ensemble. Et le pape François, c'est lui qui a ouvert la porte à ce type de nouveauté.
Il y a une liberté chez le pape François, père Daniel Douigou.
Le pape encourage la créativité, encourage la responsabilité, et pour le coup, c'est une autre façon de parler de Dieu. C'est pas un Dieu qui interdit, c'est un Dieu qui dit oui et qui donne la liberté d'inventer.
Merci père Daniel Douigou. On vous retrouve après pour votre livre Lettre ouverte d'un curé au pape François. Merci Marie Malzac.
Merci beaucoup.
Je rappelle que vous signez ce week-end avec Nicolas Senez le dossier sur les 5 ans du pape François, qui s'intitule 5 ans après l'élection de François, une réforme toujours en mouvement.
religions du monde. Geneviève Delrue.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Dans cette deuxième partie de Religion du Monde, nous poursuivons notre émission sur le bilan des 5 années de pontificat du pape François avec Éric Sénanque, le correspondant de RFI au Vatican, et notre invité en studio, le père Daniel Duigou, curé de la paroisse Saint-Méry à Paris, qui vient de publier aux presses de la Renaissance « Lettre ouverte d'un curé au pape François ». Éric Sénanque, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Je reviens donc avec vous sur les résistances que rencontre le pape François, et elles sont nombreuses au sein de la curie. Et on peut les percevoir d'ailleurs dans les discours, les textes du pape François, réunis dans le livre publié récemment chez Bayard, Pape François, réformer l'Église. Et on voit qu'effectivement qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. On se souvient bien sûr de son discours à la curie fin 2014 sur les maladies spirituelles de la curie. Et puis fin 2017, quand il a parlé à nouveau à la curie, il a parlé de traître. Éric Sénanque, alors c'est un pape effectivement qui ne ménage pas la curie quand même.
Oui, on peut se demander quelle est vraiment la confiance qu'il a dans ses collaborateurs, dans ses proches. Vous l'avez évoqué en 2014, ce fameux discours qui avait fait beaucoup de bruit de ses vœux de Noël à la curie, où le pape évoquait ses 15 maladies de la curie, et il s'est mis à dos beaucoup de ses collaborateurs à ce moment-là. L'an dernier, il a quand même remercié ses proches collaborateurs de la curie, mais il a invité à dépasser une logique de petit cercle de complot. On sent donc que le pape a peu confiance, ou en tout cas se méfie de ses proches collaborateurs. Un autre point très notable, le caractère parfois colérique du pape François, qui tranche avec sa bonhomie auprès des fidèles. Le pape peut être cassant, directif, impulsif même. Il s'exprime sans phare, on le sait. On l'a vu récemment quand il a parlé du scandale Barros au Chili, en demandant aux victimes d'un prêtre pédophile d'apporter des preuves. Bref, François, c'est un style sans filet qui fait parfois des dégâts. Et puis une autre chose frappante, le pape semble privilégier ses proches à l'extérieur plus que dans la curée elle-même, dont il semble se méfier. Par exemple, il prend très souvent conseil auprès de Mgr Victor Manuel Fernandez, c'est le recteur de l'Université Pontificale Catholique d'Argentine.
Oui, en fait, c'est cela. Il privilégie en fait des relations personnelles avec des gens qu'il connaît plutôt qu'avec un monde qu'il ne connaissait pas en arrivant à la curie.
Oui, absolument. Il préfère faire confiance à ses amis, souvent argentins, qu'il connaît depuis des années et qui tranchent un peu avec ce monde dans lequel il est arrivé après son élection au siège de Pierre. Alors concrètement, pour les employés du Vatican, parfois c'est assez déroutant. Sur le papier, dans ses réformes, il a fusionné des dicastères, mais la communication est encore un peu difficile. Il faut faire travailler tous ces gens qui n'ont jamais eu l'habitude de travailler ensemble. Il faut travailler de manière décloisonnée. La grogne peut aussi venir de ses employés du Vatican. Par exemple, en termes de communication, le secrétariat pour les communications a été créé en 2015. Il y a un nouveau portail multimédia en 6 langues qui présente une information de manière dynamique, fonctionnelle, sur le pape François, sur le Vatican. Mais dans le fond, de nombreux employés s'interrogent aussi sur une volonté un peu marketing de vendre une marque, la marque du pape, au risque de devenir une agence de com. Il y a donc pas mal de questions qui se posent aujourd'hui dans ce pontificat.
En tous les cas, un des bilans que l'on peut tirer, Éric Sénanque, de ce pontificat, c'est quand même une véritable ouverture sur le monde.
Oui, absolument. Et à l'heure où nous parlons, Geneviève, le premier hackathon se tient au Vatican, c'est-à-dire que des développeurs informatiques du monde entier, des geeks venus notamment des États-Unis, de Harvard, sont là pour partager sur des thématiques comme l'inclusion sociale ou les migrants, des thèmes chers, on le sait, au pape François. Le Vatican, qui ces 5 dernières années, en fait, s'est vraiment ouvert à la culture digitale contemporaine. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, est venu rencontrer François en 2016. Le pape, on le sait, est sur Instagram. Il a plus de 40 millions de followers sur Twitter. Et on pourrait prendre un autre exemple révélateur un peu de cette ouverture au monde, c'est l'Académie pontificale des sciences qui est devenue un peu une véritable agora. Dans les jardins du Vatican, la maison Picapre accueille depuis plusieurs années des conférences internationales sur le changement climatique par exemple, mais aussi le trafic des êtres humains, la bioéthique. On a entendu de nombreux prix Nobel s'exprimer, y compris des voix à l'opposé des positions de l'Église, par exemple celle du biologiste américain Paul Ehrlich qui promeut le contrôle des populations. Bref, on le voit, le Vatican sous François se veut toujours en dialogue avec le monde.
Alors précisément, cette semaine, c'était la journée, donc le 8 mars, c'était la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Une brèche, là encore, s'est ouverte avec la publication dans le mensuel du Vatican de l'Observatore Romano, un article sur la situation des femmes. Alors là encore, est-ce que le pape n'est pas tenu, lui aussi, de s'ouvrir à cette question des femmes, les femmes qui ne sont pas bien traitées, semble-t-il, au Vatican ?
Oui, absolument. Est-ce que le phénomène MeToo serait arrivé à l'intérieur même du Vatican ? C'est la question qu'on a pu se poser ces derniers jours. Après la publication dans le mensuel féminin de l'Osservatore Romano de cette enquête assez choc, puisque des religieuses dénoncent des rythmes excessifs de travail domestique sans avoir leur mot à dire. Bien souvent, elles ne sont pas payées, ni même ont de contrat de travail. L'enquête, je vous rappelle, s'intitule « Le travail quasi gratuit des sœurs ». Elle a fait un bruit incroyable, puisqu'elle a été reprise par toute la presse internationale. Des religieuses qui se lèvent aux aurores pour préparer le petit déjeuner, se couchent une fois que le dîner a été servi, et ne sont pas invitées, surtout à la table des évêques ou des cardinaux qu'elles servent. Et l'un des nœuds du problème, Geneviève, est la peur de parler, parce que dans de nombreux cas, ces religieuses viennent de pays pauvres, d'Afrique ou d'Asie par exemple, ou d'Amérique latine. Elles sont souvent envoyées à Rome par leur congrégation et se sentent redevables. Il y a donc beaucoup à faire encore pour donner la voix à ces femmes, à ces religieuses, à l'intérieur même du Vatican.
Oui, là encore, une réforme est à faire. Je vous remercie, Eric Sénanque. Je rappelle que vous êtes le correspondant de RFI au Vatican. Merci. Après ce bilan d'étape du pontificat du pape François, parole de terrain d'un curé d'une paroisse peu ordinaire à Paris, le père Daniel Douigou, curé de la paroisse Saint-Méry que nous avons entendu dans cette première partie. Nous vous retrouvons pour parler ensemble de votre livre, père Daniel Douigou. Vous avez donc publié aux presses de la Renaissance « Lettre ouverte d'un curé au pape François ». Un pape avec lequel, manifestement, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde.
Oui, ça a été une chance extraordinaire de le rencontrer pendant 45 minutes. Comme je suis également journaliste, ça s'est transformé d'une certaine façon en conférence de presse. Et à bâton rompu, on a échangé sans protocole. Chance extraordinaire parce qu'aussi, on rencontre tout de suite un homme d'une liberté intérieure tout à fait étonnante. On est, si j'ose dire, entre guillemets, au cœur du système et on voit un homme qui est d'abord et avant tout soucieux, non pas de protéger le système, mais d'ouvrir les portes de l'Église au monde d'aujourd'hui, d'accueillir les hommes et les femmes dans la modernité qui est la nôtre.
Alors, vous vous retrouvez effectivement parce que vous êtes aussi un homme de liberté. Il faut quand même préciser que vous avez été, avant d'être prêtre, à l'âge de 51 ans, vous avez été ordonné à 51 ans, vous avez été journaliste, à la télévision.
Journaliste, présentateur. Du 20h, tout ça, oui. Oui, parce que pour moi, ce qui était important pour être prêtre, c'était d'abord être prêtre pour le monde, donc connaître le monde. Et pour moi, journaliste, c'était aller dans les coulisses du politique, aller à l'Élysée, à l'Assemblée nationale, etc., et bien connaître ce monde pour mieux annoncer Dieu.
Et puis également, vous êtes psychologue et psychanalyste.
Et psychanalyste parce que une chose est de mieux connaître la société, autre chose aussi est de mieux connaître le fonctionnement de l'individu qui est en permanence affronté à son inconscient. Et aujourd'hui, grâce aux sciences humaines, on peut pas regarder l'homme comme au 18e, 19e siècle, notamment en ce qui concerne la sexualité. Et il s'agit d'abord et avant tout, pour annoncer Dieu, de prendre en compte la réalité de l'homme, la réalité de l'humain. Et donc, je crois que ça c'est un des grands défis de l'Église d'aujourd'hui, c'est de changer notre langage. Lorsque je lis le missel et que je lis des paroles qui ne veulent plus rien dire aujourd'hui, il s'agit de parler avec les mots d'aujourd'hui de Dieu et pas de creuser le fossé entre une Église d'hier et le monde de demain.
Quelle parole, par exemple, vous avez ? Donnez-moi un exemple d'une parole qui ne dit plus rien aujourd'hui.
Tout simplement, par exemple, le mot péché. Lorsque je célèbre des funérailles et que je vois que prière après prière, on parle du péché, on demande la rédemption, comme si on tuait encore une deuxième fois la personne, alors qu'il s'agit d'abord de célébrer une vie qui a été sans doute heureuse, qui a été généreuse, et pas enfoncer l'homme, alors que l'essentiel, c'est d'ouvrir des chemins nouveaux. On est face à des défis gigantesques. Que va devenir l'homme demain par rapport au climat, par rapport à ces guerres comme la Syrie, par rapport à d'autres défis comme la technologie, où on peut très bien l'homme se réduire à une puce électronique et ne plus avoir de liberté. Mais voilà, là où on attend l'Église, où on attend une parole. Et si l'Église n'a pas de parole sur ces grands défis-là, eh bien elle perd sa place dans le monde.
Et pour vous, ça, Daniel Wigou, c'est la réforme que le pape doit mener.
C'est la réforme et c'est l'expérience que l'on mène à Saint-Méry grâce à une liberté extraordinaire qui nous est donnée depuis le cardinal Marty, suite au concile, avec l'ouverture de Beaubourg. C'est d'essayer d'inventer des formes nouvelles d'église pour être pleinement dans le temps avec et solidaire avec les hommes et les femmes d'aujourd'hui et avoir un discours en phase avec les grands défis d'aujourd'hui.
Alors Saint-Méry, effectivement, c'est une église d'avant-garde, j'allais dire. C'est dans cette église que Coluche a monté les premières premiers restos du cœur.
Et c'est une preuve, c'est entre guillemets, de l'ouverture de cette église. On a été les premiers à ouvrir nos portes à Coluche pour ces premières restos du cœur. On ouvre les portes à David et Jonathan, qui est l'association des homosexuels. On bénit des couples divorcés, remariés, etc. C'est-à-dire qu'on ne juge pas, on accueille. On accueille les hommes et les femmes dans le processus de leur vie. C'est tellement difficile déjà aujourd'hui de survivre, je dirais, dans un monde de plus en plus difficile, que l'Église doit d'abord avoir une parole d'espérance et permettre aux uns et aux autres, dans leur désir d'exister, d'être heureux, eh bien leur permettre d'ouvrir et d'expérimenter. Ça, c'est une phrase aussi qu'on utilise souvent et j'en ai parlé au pape. Retrouver la liberté, c'est retrouver la possibilité d'expérimenter, ne pas rester dans des modes d'emploi d'hier. Le monde est en train de changer. Il faut inventer l'Église. L'Église, si l'Église est encore debout aujourd'hui, c'est parce qu'elle a su, au cours des siècles, de s'inventer. Et il faut continuer à inventer l'Église.
Alors, la première urgence, c'est quoi ? Selon vous, à vous lire, c'est séparer le sacré du non-sacré. Ça veut dire quoi ?
Pour moi, alors, c'est tout à fait fondamental. Il est dit, c'est Matthieu dans l'Évangile, que au moment où Jésus meurt sur la croix, il y a ce voile dans le sanctuaire qui distinguait le sacré du non-sacré qui se déchire. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, avec Jésus, il y a une révolution au niveau de la pensée sur Dieu, de la pensée sur l'homme. Il n'y a plus d'un côté le sacré réservé aux prêtres et de l'autre côté le non-sacré réservé aux autres qui ne savent pas, qui doivent apprendre par cœur les leçons de l'histoire. Qu'est-ce qui est sacré ? Et on le voit très bien dans les propositions et les paroles du pape François aujourd'hui, c'est l'homme. C'est l'avenir de l'homme. C'est faire en sorte que la société change pour permettre à l'homme de demain d'avoir une place. Faire en sorte que l'économie soit au service de l'homme et pas le contraire. Et c'est absolument pas évident aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une urgence. Et que donc, l'important c'est pas de bâtir des églises, même s'il faut peut-être bâtir des lieux pour se rassembler. L'important c'est d'avoir une parole qui dit aux hommes « Oui, vas-y, construis ta vie, Dieu est avec toi ».
Oui, d'ailleurs, vous dites, le péché, finalement, c'est de rater sa vie. C'est ça, non ?
Mais la racine du mot péché, c'est ça, c'est de passer à côté de la cible.
Ah bon ? C'est ça ?
Mais bien sûr, on est entré dans des catégories qui faussent l'idée même. Quand on parle de la vie éternelle, en grec, ça veut dire la vraie vie. Et qu'est-ce que c'est que la vraie vie ? qui donne la vie. Eh bien, c'est le fait de partager, c'est le fait d'être solidaire avec les autres, c'est le fait d'accueillir les migrants. C'est quand même le grand défi, et François, le pape François a raison, c'est le grand défi de demain. Le problème, c'est que au niveau des conseils des ministres, moi j'ai été journaliste politique, aujourd'hui, il y a quasiment aucune réflexion sur dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Or, on est face à une révolution au niveau planétaire, c'est la mondialisation qui va entraîner une redistribution des richesses, une redistribution des populations.
Changement climatique.
Le pape regarde cet horizon et pour lui, et il a raison, l'avenir, la paix, la paix va se construire que dans la mesure où les pays riches, vont ouvrir leurs portes à ces hommes et à ces femmes qui fuient la guerre, qui fuient la misère, qui fuient la pauvreté. Et il est dans son rôle d'alerter. Si le mot charité veut dire quelque chose, si le mot foi veut dire quelque chose, eh bien, il s'agit de sauter le pas et de prendre des risques en ouvrant nos frontières, alors que, et ça c'est très très grave, on assiste à un recroquevillement des populations et des États. On est plus dans une situation de défense de ses propres intérêts, plutôt que d'accueillir l'étranger. Mais dans l'Évangile, l'essentiel, la foi, c'est accueillir précisément l'étranger, celui qui est dans la pauvreté, parce que c'est à travers lui que je vais me reconnaître moi-même le pauvre en quête de Dieu.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une répartition des rôles entre effectivement le pape qui tient son rôle en voulant ouvrir les portes, hein, bien sûr, aux migrants, et puis le politique qui dit voilà, attention, il y a le principe de réalité.
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire chacun est dans son registre, mais au final, le politique, c'est le bonheur de l'homme. Et aujourd'hui, l'important, c'est d'ouvrir le débat au sein même du politique et de permettre à l'Église de prendre la parole dans ce débat et de dire quelque chose. L'Église ne peut pas se situer hors du politique parce que le sens du politique, c'est le sens de l'homme. Et donc, on peut pas partager la religion qui serait que du domaine du privé et le politique dans le domaine du public. Ça ne tient pas, ça ne veut rien dire. L'essentiel, c'est d'ouvrir le débat et de faire en sorte que l'Église prenne les moyens, avec un langage nouveau, d'entrer dans le débat et de défendre le sens de l'homme dont elle est porteuse.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Père Daniel Douigou, est-ce que le fait que vous ayez vécu plusieurs années dans le Grand Sud marocain, hein, puisque vous étiez parti dans le Grand Sud chercher une vie érémitique, hein, et puis oui, aussi le dialogue islamo-chrétien, est-ce que cela a changé précisément votre vision justement ?
Écoutez, étonnamment, alors que j'avais pas beaucoup de distance, je vivais, j'étais né à Paris et je me sentais complètement parisien, en allant à l'étranger et de me sentir étranger dans un pays étranger, à mon retour, d'une part je vois la grande violence qui existe dans la société, j'ai été tout à fait surpris de cela, et je me sens étranger dans mon propre pays. Et je crois que ça c'est important, le juif au fond, et le chrétien, qui marche sur le même chemin que les juifs, est d'abord un étranger, c'est-à-dire l'important c'est demain. L'important c'est de quitter hier pour construire des chemins nouveaux et que chacun trouve son propre chemin. Et on est alors dans un exode. Et ça fait partie de notre identité. J'en parlais tout à l'heure, le problème c'est, et on le voit dans une partie des jeunes, le besoin de réassurance. Et faut faire attention, la religion peut être un refuge, alors que on parlait de la violence du pape, on peut parler de la violence de Jésus.
Enfin, la violence du pape, de ses propos à l'égard,
et de ses propos
vis-à-vis des membres de la curie, deux membres de la curie, oui.
Mais c'est d'abord le monde qui est violent, et que face à cette violence, qui a tendance à écraser les individus, eh bien, il peut y avoir parfois des paroles violentes où il s'agit de réveiller les consciences. Et je crois que là, il y a nécessité de dire, de dénoncer, de prendre la parole et de défendre l'homme parce qu'il est menacé vis-à-vis de tous les défis de demain.
Que vous disent les jeunes qui viennent à Saint-Méry, Père Daniel Douigou?
Moi, ce que je constate surtout, c'est que les jeunes qui arrivent, notamment pour la préparation au mariage, ils ont quoi? Ils ont 25 ans, ils ont 30 ans. Ils rencontrent une femme. C'est un bouleversement dans leur vie. C'est fini l'adolescent. Ils entrent dans le monde des adultes.
À 7 ans, en général.
Ils commencent leur carrière avec toutes les difficultés d'entrer dans une entreprise. Et ils ont gardé encore dans leur tête le catéchisme. Alors qu'ils avaient 10 ans, et ce catéchisme-là ne leur permet plus de comprendre la foi aujourd'hui. Il faut réécrire le catéchisme. Il faut repenser les mots pour s'adresser à des adultes qui sont responsables de leur vie et leur annoncer un autre Jésus que celui qu'on leur a expliqué. C'est pas une critique du catéchisme quand on a 10 ans. C'est de dire que on a vécu comme si les choses étaient évidentes et il faut accompagner l'adulte dans la modernité de notre vie qui change tous les jours. Et donc, par conséquent, il faut changer de lunettes. Il faut voir différemment l'homme aujourd'hui et en regardant le monde différemment, il faut changer notre façon de parler au monde parce que ce n'est que comme cela qu'on sera crédible, qu'on pourra annoncer Dieu dans la crédibilité d'un monde qui est en train de changer.
Alors, comment voyez-vous la place du prêtre demain ?
Alors, la place du prêtre, il faut revenir à ce que disait Vatican II, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout, le sacerdoce commun. Il faut mettre un terme au monopole du sacerdoce. Si l'Église se réforme, elle se réformera avec les laïcs, avec les prêtres.
C'est ce que vous faites à Saint-Méry,
avec le peuple de Dieu, mais pas attendre de la hiérarchie qu'elle change les choses. Le sacerdoce commun, c'est un sacerdoce qui appartient aux baptisés. Et par conséquent, il n'y a plus de prêtres demain. J'ai 70 ans, ça veut dire que dans la retraite étant à 75 ans, il y a à peu près, je crois, 20 000 prêtres actuellement. Plus de la moitié n'exercera plus son ministère. Donc, il faut revoir la gouvernance de l'Église. Et je vois plutôt la possibilité d'un côté d'autoriser des laïcs à présider l'Eucharistie, là où peut pas y avoir de prêtres, et de l'autre côté, eh bien, les prêtres qui font collège avec l'évêque, les prêtres qui assurent l'unité. L'unité dans la communion dans l'unité, afin que ces différentes communautés présidées par des laïcs ne deviennent pas des sectes. Mais là, tout simplement, on revient au premier temps de la chrétienté. Retrouver les évangiles et les épîtres, on parle pas de prêtres. On était dans une cassure par rapport aux prêtres de l'ancien temps. Alors, que au 1er, 2e siècle, on ait réintroduit cette nécessité de prêtre qui assure l'unité autour de l'évêque pour une fidélité à l'évangile, oui, mais de par notre baptême, nous sommes tous prêtres. Et il y a d'ailleurs une très belle phrase que disait le père Congard, on ordonne certains hommes, on ordonne certains pour que tous le deviennent.
C'est une belle phrase, donc le père Congard, un des pères du concile Vatican II, dont vous dites d'ailleurs, à propos de Vatican II, que c'est là où, enfin, on apprend que Dieu aime le monde. Ça veut dire quoi, cette phrase?
Mais vous rendez compte, il a fallu Vatican II pour dire quelque chose qui est essentiel, qui est la base de toute la Bible. Dieu aime le monde. Ça veut dire qu'on l'avait perdu, cette notion-là d'un Dieu qui accueille le monde et qui fait corps, je dirais, avec le monde. Il a fallu qu'on le dise. Donc, on revenait de loin.
On a appris cette semaine que le pape Paul VI serait canonisé, donc après avoir été béatifié. Vous trouvez ça bien? Effectivement, ça n'est pas l'initiateur, mais enfin, c'est quand même lui qui a mené Vatican II jusqu'au bout.
C'est lui qui a mené Vatican II.
Deux. Lapsus révélateur.
Mais moi, je voudrais insister sur la notion de saint. Celui qui est saint, S-A-I-N-T, c'est pas celui qui est hors du monde ou au-dessus du monde, sans tache, pur, etc. C'est celui qui, je dirais, relève les manches, met les mains dans le cambouis et n'a pas peur, comme François. Il n'a pas peur, François, de vivre son humanité et pleinement son humanité, malgré parfois des contradictions, malgré parfois des circonstances historiques qui font que, vous ne pouvez pas vous échapper d'une réalité humaine.
Le pape François a compris que l'Église avait rendez-vous aujourd'hui avec l'histoire.
Sa force est double. Premièrement, c'est de ne pas avoir peur. Deuxièmement, d'avoir parfaitement compris comment fonctionnait ou ne fonctionnait pas le Vatican, et pour la première fois s'appuyer sur l'opinion publique, c'est-à-dire d'une certaine façon sur le bon sens, c'est-à-dire sur des gens qui sont responsables, qui sont adultes, qui ont un jugement pour pouvoir s'en servir de cette opinion publique de levier sur l'institution.
En cela, c'est un bon politique ?
Oui, c'est un politique, il ne peut pas ne pas être politique, et tous les papes sont politiques. L'essentiel, c'est de bien situer la politique dans cette histoire de l'humanité, l'humanité comme l'Église est à construire.
Je vous remercie, Père Daniel Douigou. Je rappelle donc le titre de votre livre, « Lettre ouverte d'un curé au pape François », le pape que donc vous aviez rencontré l'été 2015, et c'est publié aux presses de la Renaissance. Fin de Religion du Monde, Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.